Ça vaut pour le Venezuela, ça vaut pour tous les peuples du monde entier.
À bas les dictateurs.
À bas les dictateurs, sans aucune difficulté.
Merci Manon Aubry, c'était votre grande interview, je vous dis à bientôt.
À bientôt, merci.
Merci à vous.
Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, et moi je vous dis à la semaine prochaine.
Au carillon d'Europe 1, on retrouve Maël Laurent pour le journal. Bonsoir Maël.
Bonsoir Valérie et bonsoir à tous.
Europe 1 Nuit Weekend. Maël Laurent.
Il est officiellement signé l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. La présidente de la Commission avait fait le déplacement jusqu'au Paraguay. Vous l'entendrez dans ce journal. Vous entendrez également la réaction de la FNSEA et celle d'un jeune agriculteur qui s'interroge à l'idée de lancer son activité dans ce contexte de concurrence accrue. Des menaces inacceptables selon Emmanuel Macron, une spirale dangereuse pour l'Union européenne. Certaines des réactions à l'annonce de Donald Trump de nouvelles surtaxes douanières appliquées à certains pays européens, dont la France, tant que le Groenland ne sera pas intégralement vendu aux États-Unis. Plusieurs milliers de manifestants ont défilé aujourd'hui dans plusieurs villes du Danemark, y compris au Groenland. On fera le point dans ce journal également. Des manifestations également dans plusieurs villes de France, en soutien cette fois au peuple iranien. Contestation toujours aussi fortement réprimée par le régime, au moment où le guide suprême iranien accuse nommément Donald Trump d'être à l'origine des milliers de victimes de cette répression en Iran. On vous raconte dans cette édition. L'accord était donc négocié depuis plus de 25 ans, le voilà conclu. Malgré l'opposition de la France, les quatre pays du Mercosur, Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay et l'Union européenne ont signé cet après-midi au Paraguay un traité historique avec à la clé, Caroline Baudry, la création de l'une des plus importantes zones de libre-échange au monde jamais créée.
Oui, puisque ensemble, les deux continents représentent 30% du PIB mondial. Ils vont pouvoir commercer sans droit de douane dans 90% des échanges. L'Union européenne vendra donc ses automobiles, machines, produits chimiques, vins et spiritueux aux pays du Mercosur, qui exportera entre autres bœuf, volaille, sucre, riz, miel et soja sud-américain. Tout cela va créer de l'emploi et de la prospérité, a déclaré au Paraguay la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
Nous sommes en train de créer un marché de 700 millions de consommateurs. Ceci est phénoménal. Cet accord envoie un puissant message au reste du monde. Nous optons pour un commerce juste plutôt que des droits de douane, pour un partenariat productif à long terme plutôt que l'isolement.
Allusion au protectionnisme américain, l'accord Mercosur intervient alors que Donald Trump augmente les droits de douane depuis un an et entrave le commerce entre les États-Unis et l'Europe.
Caroline Baudry pour Europe 1, merci à vous. Et même si cette signature ne veut pas dire une entrée immédiate en vigueur, les agriculteurs majoritairement opposés à ce traité de libre-échange semblent désormais partagés entre résignation et poursuite de la mobilisation, à l'image de Lux Smethart, vice-président du premier syndicat agricole, la FNSEA. Écoutez sa réaction, il était l'invité de Stéphanie Demuru dans Europe 1 Soir Weekend.
Ça prend aux tripes, ça restera pas un jour glorieux. C'est beaucoup de colère, mais derrière aussi de la détermination. Je crois qu'on ira jusqu'au bout. Ce traité du Mercosur, c'est non. Et en tout cas, pour nous, c'est l'occasion de dire à l'ensemble des Français, soyez derrière nous. Quand je dis on est déterminés, c'est qu'on va aller en nombre à Strasbourg mardi. Il y aura 700, peut-être 1000 tracteurs, il y aura 4000, 5000 agriculteurs européens et on aura notamment des Allemands. Tiens, c'est bizarre, ils se réveillent parce qu'ils sont bien en train de se rendre compte que oui, ça va avoir des conséquences. Il y a une pression mentale qui est mise chez les paysans depuis ces derniers mois qui n'est pas possible à vivre. Il faut absolument qu'on retrouve l'envie d'entreprendre chez nous.
Lux Messart, vice-président de la FNSEA, le premier syndicat agricole. Il y a donc d'un côté les agriculteurs bien établis, et puis il y a la nouvelle génération, et là aussi l'incertitude prime autant, voire davantage, entre la passion du métier et la peur de la précarité. Beaucoup s'interrogent, vaut-il encore le coup de se lancer? Illustration avec Maxence, originaire du Cher, étudiant agricole en BTS production animale. Il s'est confié au micro Europe 1 de Romy Azoulay.
À 19 ans, Maxence veut lancer son élevage de vaches laitières dès l'été prochain, malgré les avertissements de son père agriculteur qui connaît bien la dure réalité du métier.
Mon père m'a toujours dit, surtout si tu veux faire autre chose que l'agricole, c'est tant mieux. Il sait me mettre en garde quand tu vois ce que ça te rapporte et au prix que tu le payes, il faut qu'il y ait quelque chose à la fin. Et travailler à perte, il l'a fait pendant des années, il le fait encore maintenant. Hein. C'est pas possible, c'est plus une vie.
Maxence est passionné par l'agriculture, mais pas question de reproduire ce schéma. Il ne veut pas travailler 15 heures par jour. jour pour finir dans le rouge à la fin du mois.
Pour moi, c'est le bon choix parce que c'est une passion, mais j'ai envie d'avoir une vie à côté. C'est pas parce que je suis agriculteur que je dois plus voyager, que je dois plus avoir de semaines de vacances.
Il reconnaît avoir peur de l'échec, mais pour lui, son métier est indispensable et ne peut pas disparaître.
Que certaines productions disparaissent parce que réchauffement climatique, ça je peux l'entendre, mais tout le reste, enfin, je vois pas comment on peut réduire le nombre d'exploitants tout en ayant une souveraineté alimentaire respectée.
Tout à la fois patron, comptable, vétérinaire, pour nourrir la France, comme il dit, il sait qu'il devra devenir un vrai couteau suisse.
Romy Azoulay pour Europe 1. Dans l'actualité également, le compromis proposé par Sébastien Lecornu sur le budget. De nouvelles propositions mises sur la table hier par le Premier ministre. Plusieurs mesures en faveur des étudiants, sur le pouvoir d'achat, le logement notamment, qui ont fait vivement réagir la chef de file des députés Rassemblement National à l'Assemblée. On écoute Marine Le Pen.
Quelles sont les déclarations qu'il a fait hier ? L'aggravation encore du déficit ? C'est-à-dire que par rapport au projet de PLF qui était déjà un drame, il aggrave encore les dépenses. Et pas une économie. Pas une économie sur l'immigration, pas une économie sur l'Union européenne, pas une économie sur le train de vie de l'État. Rien sur la fraude. Le texte sur la fraude a disparu. Donc, je suis navrée, mais enfin, par respect pour nos consciences et nos électeurs, eh bien, nous nous opposons à un budget qui nous apparaît affreusement néfaste pour le pays. C'est simple.
Marine Le Pen qui accuse également le Parti Socialiste, avec qui l'exécutif négocie ce compromis budgétaire, de n'être plus, je cite, que la béquille rouillée et tordue de ce qu'il reste de la Macronie, fin de citation. Quel budget est adopté par quelle voix ? On y revient dans quelques instants dans l'interview d'Europe 1 Weekend avec Arnaud Benedetti, directeur de la Nouvelle Revue Politique et professeur à Sorbonne Université.
Europe 1 Weekend. Maëlle Laurent.
À l'étranger, Donald Trump a l'offensive pour tenter de faire plier les Européens sur le Groenland. Il promet d'appliquer une vague de droits de douane de plus en plus élevée à 8 pays européens, dont la France. Wilfried de Villers, bonsoir.
Bonsoir Maëlle, bonsoir à tous.
Des droits de douane imposés jusqu'à la vente totale du Groenland, c'est ce que dit le président américain.
Oui, dès le 1er février, dans deux semaines exactement, la France, le Danemark, la Suède, la Norvège, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas ainsi que la Finlande se verront imposer 10% de droits de douane sur toutes les marchandises qu'ils exportent vers les États-Unis et ils passeront à 25% le 1er juin si aucun accord n'a été trouvé. Pour justifier ces menaces, Donald Trump affirme que ces pays européens se livrent à un jeu dangereux après qu'ils ont tous envoyé des soldats sur le territoire arctique ces derniers jours, façon de signifier une présence européenne sur place. Les réactions européennes justement n'ont pas tardé. Emmanuel Macron déplore des menaces tarifaires inacceptables. Elles sont totalement erronées, estime le Premier ministre britannique Keir Starmer. La Commission européenne évoque pour sa part une spirale dangereuse vers le bas et au moment où Donald Trump annonçait ses nouveaux droits de douane, des milliers de personnes étaient rassemblées à Nuuk, capitale du Groenland, et à Copenhague pour dénoncer les ambitions territoriales américaines.
Wilfried de Villers pour Europe 1. Donald Trump vivement attaqué en parallèle par le guide suprême iranien. Il accuse le président américain d'être coupable de la mort des manifestants opposés au régime. Écoutez-le.
La particularité de ces émeutes était que le président des États-Unis lui-même s'est impliqué. Il s'est exprimé, a fait part de son opinion et a proféré des menaces. Il a encouragé les émeutiers, leur a envoyé des messages depuis les États-Unis leur disant d'aller de l'avant, d'avancer sans crainte. Il a déclaré « Nous vous soutenons, nous vous apporterons un soutien militaire ». En d'autres termes, le président américain lui-même s'est impliqué dans les troubles. Il en fait partie.
L'ayatollah Khamenei qui affirme donc que le projet des États-Unis en Iran consiste à dominer militairement, politiquement et économiquement son pays. Et cette contestation du peuple iranien trouve un écho dans plusieurs pays du monde, dans la France. Des manifestations de soutien ont eu lieu aujourd'hui à Paris, Marseille, Strasbourg ou encore Bordeaux à l'appel de plusieurs collectifs et associations. Des milliers de personnes qui ont défilé pour dénoncer l'oppression du régime en place et la répression qui a déjà fait des milliers de morts en quelques jours. Reportage à Lyon de la correspondante d'Europe 1, Noémie Loisel.
Des centaines de manifestants brandissent des drapeaux iraniens pour faire entendre la voix de leur peuple. Dans la foule, un réfugié politique à Lyon n'a pu parler que quelques minutes avec un membre de sa famille, car Internet est toujours coupé en Iran. Il a appris le décès de son cousin, traduit Anaïs.
Il était dans la foule, proche de son domicile, avec son père, en train de manifester. Et à ce moment-là, ils ont pris le fusil, ils l'ont tué. Ils ont mis des policiers de partout, il n'y a plus aucune manifestation. Son ami lui dit, il y a beaucoup plus que 20 000 personnes tuées.
Tous espèrent que cette contestation arrestation sanglante aboutira enfin à la chute du régime des Mollahs. Pour Ali, 54 ans, réfugié à Lyon depuis 1984, cela ne pourra se faire sans une intervention internationale.
En cas de non-aboutissement, la répression sera encore plus sanglante que les autres fois. À chaque fois, on a un petit espoir que le régime tombe. Et à chaque fois, il n'y a rien qui change et le régime se renforce, à vrai dire. Là, on n'a pas le choix. Il faut une aide extérieure, quelle qu'elle soit.
Une majorité des manifestants rencontrés appelle au retour au pouvoir de Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah d'Iran. Quoi qu'il en soit, il faut rester unis pour reconstruire le pays, insiste-t-il. Lyon, Noémie Loisel, Europe 1.
Toujours au Proche-Orient, on en sait un peu plus sur le Conseil de la paix pour Gaza. Voulu par Donald Trump, y siégeront son chef de la diplomatie, Marco Rubio, ou encore l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair. Proposition faite également par le président américain à ses homologues turcs et égyptiens. Un comité dont les membres ne satisfont ni Israël, ni le djihad islamique. Avant de passer à la météo, n'oubliez pas que la prudence est particulièrement de mise en montagne, avec un début d'année particulièrement meurtrier en raison des avalanches. 5 personnes sont mortes aujourd'hui en Autriche. Hier, c'est un Allemand qui a été tué dans les Alpes suisses. Le week-end dernier, pas moins de 6 individus ont perdu la vie, cette fois côté français. Risque d'avalanche actuellement à 3 sur une échelle de 5. Sur le domaine skiable, vous êtes toujours en sécurité, mais en hors-piste, c'est forcément à vos risques et périls. Et malgré tout, Cyril de la Morinerie, il existe quelques règles de base à respecter, conseils qui peuvent tout changer parfois en cas de difficulté.
Premier conseil quand on souhaite faire du ski hors piste, se renseigner auprès des professionnels de la montagne sur place afin de vérifier les conditions météo et les risques d'avalanche. Il ne faut jamais se lancer dans une pente enneigée sans préparation, alerte Olivier Béguin, président de la compagnie des guides de Saint-Gervais-Mont-Blanc.
On arrive au sommet des remontées mécaniques, il y a une petite trace de fête dans un coin, oh, il y a une trace, boum, on y va. Et on n'est pas équipé, on ne connaît pas le manteau neigeux, on n'a aucune expérience. Et puis hélas, ça se termine tragiquement.
Un bon équipement peut sauver des vies. Il faut prendre une pelle, une sonde et porter un DVA, un détecteur de victimes d'avalanche, explique ce guide de haute montagne.
Un DVA, c'est un appareil électronique que l'on porte sur soi. Cet appareil, il émet des ondes. Et lorsque quelqu'un est recouvert, le service des pistes ou les amis du groupe se mettent dans une situation de recherche et peuvent ainsi déterminer assez vite, dans la mesure où ils ont appris à s'en servir, à retrouver une personne ensevelie.
Car les chances de survie d'une personne ensevelie dans une avalanche diminuent très rapidement. Au-delà de 15 minutes, elles deviennent très faibles. C'est pourquoi il est vivement conseillé d'être accompagné par un professionnel de la montagne qui pourra proposer des sorties sécurisées.
Cyril de la Morinerie pour Europe 1, merci à vous. Allez encore plus haut que la montagne, le ciel de votre dimanche, c'est avec Estelle Lafond. Estelle, il va falloir garder un œil particulièrement vigilant sur l'Hérault cette nuit et demain aussi.
Oui Maëlle, jusqu'à 18h demain en théorie, Météo France a placé le département en vigilance pluie, inondation. De gros cumuls sont prévus en 24h, 120 mm en plaine et jusqu'à 220 sur les hauteurs. Au réveil, il est probable qu'il y ait de nombreux orages aussi sur la zone, près du Languedoc. Le tout accompagné d'un vent à 80 voire 90 km/h au plus fort. La situation évolue aussi sur l'est de la Corse demain, en proie à de grosses pluies toute la journée. Partout ailleurs, c'est beaucoup plus calme. On a une zone le long des Ardennes et sur le Grand Est qui profitera d'une jolie matinée, à l'exception de la plaine d'Alsace, sous les brouillards au réveil. Brouillard aussi sur le Val-de-Saône, la Bresse et le Lyonnais. Et puis en remontant jusqu'à la Haute-Normandie, le ciel est là aussi un petit peu plus ou moins chargé, mais ça restera sec. Et puis sur une grande moitié ouest du pays, la carte est coincée sous les nuages demain matin, vraisemblablement sans trop de pluie, peut-être quelques gouttes au niveau de la Bretagne ou du Limousin. Côté température, la fourchette est assez réduite, entre moins 2 degrés et 2 degrés sur le nord-est et entre 2 et 8 sur le reste du pays.
Merci à vous Estelle Lafond, je vous retrouve demain Estelle, toujours avec autant de plaisir. Merci également à vous d'écouter Europe 1, à bientôt 22h15, l'heure de retrouver l'interview d'Europe 1 New Weekend. Invité de ce samedi soir, Arnaud Benedetti, directeur de la nouvelle revue politique et professeur à Sorbonne Université. Avec lui, on va parler du budget, ultime tractation de l'exécutif avec le Parti Socialiste avant un compromis sur le fond et un passage en force sur la forme. On fait le point, restez avec nous.
Europe 1 Nuit Weekend. Maël Laurent.
Bonsoir Arnaud Benedetti.
Bonsoir à vous.
Je rappelle donc que vous êtes directeur de la nouvelle revue politique, professeur à Sorbonne Université. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 Nuit Weekend. Nous avions échangé ici même sur ce budget 2026. C'était à la fin novembre. On est à présent un mois et demi plus tard. Toujours pas de loi de finances 2026. Alors il y a eu le rejet du budget de l'État, il y a eu la loi spéciale. Il y aura sans doute le 49-3 ou les ordonnances pour sonner la fin de la partie. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Comment est-ce que vous jugez cette séquence politique autour de ce budget qu'on vit ensemble depuis de longues semaines et qui n'en finit toujours pas. Un gouvernement qui abdique également sur la possibilité d'aller au vote sur ce budget. Décevant, désespérante, fâcheuse, quel est le bon adjectif, Arnaud Benedetti ?
C'est un gouvernement qui doit tenir compte d'une Assemblée nationale où il n'y a pas de majorité et où chaque groupe parlementaire, des groupes d'opposition comme ceux du Bloc central, d'opposition de droite ou d'opposition de gauche, essayent d'imprimer leur marque et de jouer leur partition. De toute façon, le Premier ministre, depuis le début, a considéré que le Parlement ferait le budget. Rappelez-vous de sa déclaration peu après sa nomination sur le perron de Matignon en disant que la Ve République était rentrée dans le moment le plus parlementaire de son histoire institutionnelle depuis 1958. Alors est-ce que c'est une réalité ? On peut en douter, parce que finalement, le Parlement ne parvenant pas à se mettre d'accord pour voter un budget, le Parlement va se retrouver confronté soit à être contraint de nouveau à l'utilisation d'un 49-3. Je rappelle que le 49-3, les socialistes n'en voulaient pas et en faisaient une des conditions de non-censure.
Et Sébastien Lecornu non plus, mais on va en parler.
Le Premier ministre n'en voulait pas, considérant qu'il donnait ainsi un gage à ceux qui n'en voulaient pas. La réalité, c'est qu'il y a deux solutions, deux alternatives qui constituent un véritable dilemme d'ailleurs pour les uns et pour les autres. Soit on ressort le 49-3, soit on passe par ordonnance. Et in fine, l'outil qui a été tant diabolisé, qui est l'outil du 49-3, va apparaître vraisemblablement comme un pis-aller par rapport à ce que constitueraient les ordonnances. Mais ce qu'on a vu, c'est un Premier ministre qui essaye d'abord, dans un premier temps, de faire des compromis, ou en tout cas de donner des gages à ses oppositions, principalement aux socialistes, vous l'avez dit. D'ailleurs, le groupe socialiste ne s'y est pas trompé, puisque après les annonces de Sébastien Lecornu il y a 24 heures, il s'est plutôt félicité, même s'il a considéré que ce budget était insuffisant, façon de dire que de toute façon le groupe socialiste ne s'opposera pas à l'adoption du budget, ce qui ne veut pas dire qu'il votera pour ce budget, bien évidemment.
Sébastien Lecornu, qui donne des gages au Parti Socialiste, donc, mais qui fustige en parallèle la stratégie, je cite, « cynique et profondément délibérée de la France insoumise et du Rassemblement national sur ses débats budgétaires. Débat saboté, selon Sébastien Lecornu, spécifiquement par ces deux partis. Est-ce que vous reprenez à votre compte ces adjectifs et est-ce que c'est un signe égal que vous mettez entre ce que font le parti de Jordan Bardella et celui de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée ?
Non, mais le Premier ministre est d'une certaine façon dans un jeu de rôle. Il essaye de dénoncer des oppositions qui, à ses yeux, ne seraient pas responsables et qui prendraient en otage le budget, prendraient en otage le débat parlementaire pour faire avancer leur propre agenda politique. Mais faut-il être surpris que des oppositions, quelles qu'elles soient, s'opposent lors d'une discussion budgétaire ? Je rappelle que, finalement, s'il y a un marqueur dans un débat parlementaire, c'est bien celui du budget. Quand vous êtes dans l'opposition, on voit rarement des groupes d'opposition voter pour un projet de loi de finances. Alors après, bien évidemment, il y a les stratégies parlementaires qui sont des stratégies qui visent vraisemblablement à, disons, à gagner du temps, à faire perdre du temps aussi au gouvernement, mais tout cela fait partie, j'allais dire, quelque part, de la logique parlementaire. De toute façon, les socialistes eux-mêmes ne voteront pas vraisemblablement ce budget, mais ce budget, disons, a toutes les chances d'être adopté par l'utilisation d'un 49-3 qui va finalement permettre à chacun de ne pas trop perdre la face afin de sortir de cette séquence budgétaire qui est quand même une des séquences les plus éprouvantes. Alors après, si on n'arrive pas à un accord sur le contenu de ce budget, il est évident que le Premier ministre pourrait être tenté et sera vraisemblablement tenté et contraint d'utiliser les ordonnances, qui serait une première sous la Ve République, et ce qui serait quasiment une première dans notre histoire parlementaire, presque tout régime confondu, parce que la dernière fois qu'un budget a été réglé par ordonnance en France, ça remonte à la Restauration.
On va parler de la forme de la voie parlementaire qui devrait être choisie par Sébastien Lecornu pour faire passer son budget. Mais d'abord, sur le fond, vous parlez de ses marqueurs. Il en a donné, Sébastien Lecornu, de nouveau hier soir. Augmentation de la prime d'activité, fin de l'année blanche pour les APL notamment. Le Premier ministre qui parle d'un budget meilleur et responsable. Est-ce vraiment responsable de donner ces marqueurs, d'augmenter cette prime d'activité, de mettre fin à l'année blanche pour les APL quand on a 3 500 milliards d'euros de dette publique?
Alors, il a aussi quand même donné quelques gages, en tout cas au bloc central et à la droite du bloc, de ce qu'on appelle le bloc central, puisqu'il a promis qu'il n'y aurait pas d'augmentation des impôts sur les ménages, qu'un certain nombre de mesures qui devaient être prises sur les entreprises qui avaient été défendues, notamment par la gauche, ne seront pas prises. Il essaye, on le voit bien, de distribuer sur sa droite et sur sa gauche un certain nombre d'éléments qui sont susceptibles, à ses yeux, de neutraliser un certain nombre d'oppositions, y compris au sein de son bloc central, mais aussi à l'extérieur de son bloc central avec le Parti Socialiste. Après, il est évident que, finalement, la vraie question qui est celle de l'équation budgétaire à laquelle nous sommes confrontés d'ailleurs depuis de nombreuses années, mais qui devient de plus en plus prégnante aujourd'hui, c'est de savoir si ce budget est susceptible de reprendre la maîtrise de la trajectoire de la dépense publique. Manifestement, ce n'est pas le cas. On aura des dépenses supplémentaires, on aura d'ailleurs des créations même de postes de fonctionnaires supplémentaires. Donc on est très loin du compte, l'objectif étant d'essayer d'arriver sous les 5% de déficit. On espère atteindre 4,7%. Il est clair qu'il faudra peut-être un petit coup de pouce de croissance qui n'est pas du tout certain pour y arriver. Donc on voit bien que de toute façon, quoi qu'il arrive, l'équation budgétaire ne correspondra pas certainement aux enjeux qui sont les nôtres, c'est-à-dire la réduction des déficits publics pour reprendre un peu la maîtrise de la trajectoire de notre dépense publique. C'est le vrai sujet.
Dans ce contexte d'équation budgétaire particulièrement contrainte, est-ce qu'on ne peut pas dire, avec ces gages donnés à la gauche, avec ces gages donnés au bloc central, vous en parliez, que la méthode Lecornu ressemble sacrément au mouton à cinq pattes, comme quoi, comme si on pouvait à la fois et augmenter le pouvoir d'achat, et augmenter et rester dans les clous des objectifs de déficit, et ne pas augmenter les impôts? Est-ce vraiment possible et tenable?
Ce n'est vraisemblablement pas tenable. Et le juge de paix sera finalement, à un moment donné, la réaction des marchés, éventuellement. Quelque part, finalement, quel est l'objectif de ce Premier ministre? C'est un objectif, avant d'être un objectif économique ou un objectif budgétaire, c'est un objectif politique. L'objectif politique, c'est d'éviter, en tout cas, c'est ce que l'on comprend, une crise parlementaire qui entraînerait le renversement de son gouvernement et qui ferait que le président de la République serait à nouveau en première ligne et devrait trouver une solution. Et la solution, évidemment, qui serait certainement immédiate dans l'hypothèse d'une chute du gouvernement Lecornu, en tout cas c'est ce qu'on a laissé entendre, ça serait un retour aux urnes via une dissolution.
Mais en fait, lâcher quelques milliards pour mettre en pause la crise politique, ça vaut peut-être le coup finalement.
C'est en tout cas vraisemblablement l'un des objectifs, peut-être pas le seul, mais l'un des objectifs latents du Premier ministre. Mais il est particulièrement aidé, j'allais dire, dans cette démarche, par le fait que beaucoup de parlementaires ont peur de retourner devant les électeurs. Il est clair que la peur de l'électeur, dans un contexte politique qui est fortement marqué, quand on regarde les sondages, par des aspirations et des gagismes, fait que les anciens partis de gouvernement, notamment, soit du côté du PS, soit du côté de LR, ont plutôt, eux aussi, la perspective d'essayer de tenir jusqu'à 2027 pour éviter des élections qui pourraient, en effet, s'avérer particulièrement compliquées pour une grande partie des formations de gouvernement. C'est ça, finalement, l'objectif essentiel, et de ce point de vue, il est peut-être en train d'y arriver, sauf s'il était contraint de recourir aux ordonnances, où là, il est évident que du côté du Parti Socialiste, on serait beaucoup plus gêné par l'utilisation des ordonnances qu'on l'est par le 49-3. D'ailleurs, je note qu'un certain nombre de responsables du Parti Socialiste aujourd'hui sont plutôt favorables, même s'ils le disent parfois une mésovolci, voire de manière un peu plus explicite, comme l'ancien président de la République, sont plutôt favorables au 49-3, parce que le 49-3 entraînera inévitablement une motion de censure, et les socialistes n'auront pas à les voter, en l'occurrence, ce qui permettrait au budget d'être adopté.
Justement, Arnaud Benedetti, est-ce que je peux vous demander un peu de pédagogie pour nos auditeurs ? Est-ce que vous pouvez expliquer la différence majeure entre ces deux voies constitutionnelles, le 49-3 ou le recours aux ordonnances pour doter la France d'un budget, des conséquences politiques aussi peut-être différenciées selon que le gouvernement choisisse l'une ou l'autre de ces voies ?
Ah ben c'est clair, c'est que dans la première voie, on reste dans la voie parlementaire. Le 49-3, qui est un outil qui a été particulièrement diabolisé, apparaît même aux yeux de ceux qui ont diabolisé cet outil, c'est-à-dire par exemple entre autres le groupe socialiste, comme un outil qui est plus acceptable, parce que là en l'occurrence, c'est le Parlement qui vote le budget. Si on passe par la voie de l'ordonnance, c'est l'exécutif qui va régler le budget et sans que le Parlement n'ait eu à se prononcer.
Donc, ça relève plutôt de l'ordre du symbole, ça ne change pas grand-chose dans les faits.
Ah mais ça ne change pas grand-chose dans les faits, mais ça veut dire que le Parlement aura été dessaisi. C'est-à-dire que le Parlement n'aura pas réussi dans le temps imparti à pouvoir voter, délibérer et voter sur un budget. Donc on est dans une méthode avec la méthode des ordonnances qui est une méthode plus brutale sur le plan institutionnel que celle qui consiste à passer par la voie parlementaire. Donc on peut imaginer que de toute façon, le Premier ministre fera vraisemblablement tout pour essayer de trouver un accord sur le contenu de son budget dans les 48 heures qui viennent. On sait très bien que les 48 heures qui arrivent vont être des 48 heures d'intenses et sont déjà des 48 heures d'intenses négociations
avec le
pour
PS.
Arriver à une solution qui passe par la voie parlementaire, parce que malgré tout, le 49-3, ben, c'est quand même encore l'Assemblée nationale qui peut s'exprimer, soit par la voie d'une motion de censure, entre autres, et on verra bien ce qu'il en est.
Et tant pis si Sébastien Lecornu avait annoncé peu après sa nomination qu'il ne recourrait jamais au 49-3. Ne voyez-vous pas quand même une forme de renoncement, d'échec, d'abdication peut-être du Premier ministre ?
Moi, j'ai toujours pensé que le 49-3 était un instrument qui était par trop surdiabolisé et que cet instrument d'ailleurs a été pensé sous la 5e République, mais même pensé d'abord sous la 4e République, même si le 49-3 n'existait pas sous la 4e République, mais ce sont des hommes politiques de la 4e République qui, face aux difficultés de la 4e, avaient pensé à cet article et qui a été ensuite introduit dans la Constitution de la 5e République. Le 49-3, c'est un outil d'ailleurs pour contraindre principalement la majorité, en l'occurrence. Il avait été pensé comme ça. Là, en la matière, aujourd'hui, le 49-3 va être utilisé, s'il est utilisé demain, pour finalement sauver la face. Sauver la face des uns et des autres, sauver la face du Parti Socialiste, sauver la face également de, peut-être, d'un certain nombre d'autres groupes parlementaires comme le groupe LR, et puis sauver la face du Premier ministre qui aura pu ainsi faire adopter un budget.
À qui on pourra faire crédit, Sébastien Lecornu, d'avoir réussi à donner un budget à la sécurité sociale sans passer par ce 49-3 ? C'était quand même une première petite victoire du Premier ministre.
Oui, alors si vous voulez, c'est un peu différent, parce que autant sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, des formations d'opposition peuvent au moins s'abstenir, voire parfois voter pour, alors que sur le projet de loi de finances, qui est un acte majeur qui règle le budget de la nation, ben, vous avez là un débat qui est un des marqueurs entre les oppositions et la majorité. Les oppositions, par construction, en règle générale, dont nombre de démocraties parlementaires ne votent pas les budgets. C'est ainsi, et donc là, on voit bien que c'est un exercice beaucoup plus difficile avec le projet de loi de finances que ça ne l'est avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Pour terminer, Arnaud Benedetti, on a parlé des péripéties sur le budget des oppositions qui s'évertuent à censurer Sébastien Lecornu. Est-ce qu'on n'est pas collectivement à côté de la plaque, si l'on dézoome un peu de la politique intérieure avec les frictions internationales partout, avec les velléités de Donald Trump sur le Groenland? Il menace ce soir la France de nouvelles surtaxes douanières jusqu'à la vente totale de ce territoire, avec un accord de libre-échange signé aujourd'hui par l'Europe contre l'avis de la France. N'y a-t-il pas un vrai affaiblissement de la France dans le concert des nations ? Et n'y a-t-il pas surtout une forme d'irresponsabilité totale à s'écharper sur nos tout petits sujets budgétaires ?
Oui, c'est peut-être ce qui apparaîtra à un grand nombre de nos compatriotes, c'est-à-dire que les débats politiques intérieurs sont des débats qui s'apparentent à des querelles picrocholines quand la tectonique géopolitique est en train de bouger dangereusement avec le recours à la force, avec le retour d'un certain nombre de politiques de puissance impériale, tant à l'ouest qu'à l'est, ou que dans d'autres régions du monde. Clairement, on se retrouve dans une situation de très grande fragilisation d'un pays qui, par ailleurs, ne paraît plus être en mesure de défendre ses intérêts. Vous avez raison de rappeler que la signature du traité du Mercosur se fait quand même contre la France. La France a voté contre, mais la France, malgré tout, est obligée aujourd'hui de constater qu'elle n'a pas eu les moyens de s'opposer à un traité qui, en tout cas, met dans la rue notamment ses agriculteurs dans un moment où la crise agricole touche grand nombre d'exploitations agricoles.
Et on vous réinvitera pour continuer à en parler, à suivre tous ces dossiers. Merci à vous, Arnaud Benedetti, directeur de la Nouvelle Revue Politique, professeur à Sorbonne Université. 22h30 tout pile sur Europe 1, l'heure de retrouver, d'ouvrir la libre antenne de Valérie Darmon, orchestrée, pilotée jusqu'à 1h du matin.
Merci beaucoup Maël, Laurent, et nous on se retrouve à 23h pour de nouvelles informations.
J'orchestre le flash.
Voilà, exactement. Soyez un bon chef d'orchestre. À tout à l'heure.
Europe 1, 22h30, 1h. La libre antenne. Valérie Darmon.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin sur Europe 1 en direct, comme tous les soirs. Bienvenue dans cette nouvelle libre antenne avec Nicolas pour prendre vos appels au standard avec un numéro de téléphone 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21 numéro non surtaxé. Vous pouvez nous écrire au 7 39 21 par SMS précédé du mot nuit, 75 centimes plus coût du SMS. Vous pouvez nous joindre sur la page Facebook de l'émission et à l'adresse mail libre@europe1.fr. Tristan est à la réalisation. Moi, je suis toujours à votre service. Comme toujours, je commence votre libre antenne par une citation. On ne lit pas ni écrit de la poésie parce que c'est joli. On lit et écrit de la poésie car on fait partie de l'humanité. Et l'humanité est faite de passion. La médecine, le droit, le commerce sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, la beauté, la romance, l'amour, c'est pour ça qu'on vit. Ces mots sont ceux de John Keating dans le cercle des poètes disparus. La libre antenne de ce soir sur Europe 1, c'est tout de suite.
Europe 1, la libre antenne. Valérie Darmon.
Bonsoir Marie.
Bonsoir Valérie. Merci beaucoup de me prendre à l'antenne.
Avec grand plaisir Marie.
J'espère que vous n'êtes pas trop fatiguée avec cette semaine.
Avec cette semaine un peu chargée.
Un peu chargée, beaucoup chargée, oui.
Écoutez, c'est tellement un plaisir d'animer cette émission que non, en fait, pas du tout. Elle me nourrit, voilà, cette émission. J'aime cette émission. Donc c'est un échange et les échanges sont toujours tellement bienveillants. Et quand on se sent utile, on est moins fatigué aussi, en vérité. Voilà.
Oui, mais ça se sent, ça se sent.
En tout cas, merci de prendre de mes nouvelles. De quoi voulez-vous nous parler, Marie ? Dites-moi.
Alors moi, je fais référence à la dame qui a appelé hier parce qu'elle était avec un monsieur marié.
Oui, absolument.
Et moi, je suis comme la belle au bois dormant parce que je me réveille. Moi, j'ai été avec un monsieur marié 45 ans.
Vous avez quel âge, Marie ?
J'ai 81 ans.
Ah oui, c'est quand même presque toute la vie, en fait, hein, quand même, 45 ans avec un homme marié.
C'est beaucoup. J'avais 36 ans, il en avait 42. Oui. Et il est décédé il y a 3 mois. C'est pour cela que s'est arrêté.
Donc, voilà. Vous êtes en deuil ?
Oui. Aussi. Avec des réactions bizarres, des fois... évidemment, je suis dans la peine et puis quelquefois un petit peu dans la révolte parce que quand je fais le bilan, c'est vrai que c'est compliqué, d'autant plus que sa femme est décédée il y a 4 ans et il ne l'a pas dit à ses enfants. Ça a continué comme avant.
Et vous vous voyez à quel rythme pendant toutes ces années? Parce que 45 ans, c'est vraiment... Alors là, on est vraiment dans une double vie. Vous avez fait partie de sa vie autant qu'il a fait partie de la vôtre. Parce que vous n'aviez que lui, vous étiez libre de votre côté.
Je n'ai jamais bougé d'une oreille. Et si vous voulez, j'ai fait beaucoup d'efforts parce que j'étais dans le secrétariat, etc. Donc j'ai fait de l'hôtellerie pour avoir des jours libres en semaine, évidemment. Et puis, bon, nous voyons 2 à 3 fois par semaine.
Ah oui, donc c'était une relation soutenue. Et est-ce que, contrairement à notre auditrice d'hier, vous avez pu partir en week-end de temps en temps, avoir des nuits complètes, des vacances, des choses comme ça?
Oui, parce qu'il était chef d'entreprise et donc nous arrivions à partir, mais jamais plus de 4 ou 5 jours.
Oui, mais alors c'est déjà bien quand on est la maîtresse d'avoir 4 ou 5 jours, hein, vous voyez?
C'est bien pour ça que ça a duré peut-être aussi longtemps, parce qu'il faisait quand même ce qu'il fallait pour conserver ces 2 foyers, si on peut dire.
Oui, parce qu'il vivait chez vous quand il venait les 3 nuits par semaine. Voilà. Il avait des affaires qui étaient chez vous aussi, tout ça. Comment ça se passait?
Pas vraiment, mais si vous voulez, son travail... moi, j'habite le 15e, il habitait le 16e. Et quand il rentrait de travailler, j'étais sur son chemin en plus. Alors, il n'y avait pas les téléphones portables à l'époque, c'était compliqué. Et donc, il téléphonait dans les cabines, enfin, il ne rentrait pas chez lui tant qu'il ne m'avait pas eu au téléphone. Mais, en plus, je dois vous dire, Valérie, que sa femme était enceinte.
Quand il vous a rencontré?
Voilà, exactement.
Donc, vous avez eu un coup de foudre?
Ah oui. On dit que ça ne dure pas.
Ah oui, vous êtes la preuve vivante que ça peut durer 45 ans, en tout cas jusqu'à la mort. Donc coup de foudre, donc évidemment il est saisi par ce qui se passe, parce qu'il attend un bébé avec son épouse, donc il n'avait pas prévu le coup de foudre, évidemment. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour lui? Il vous l'a dit, j'imagine qu'en 45 ans vous avez eu le temps de parler.
Après, je reviens plus tard parce que, à la fin, quand sa femme a été décédée, donc rien n'a tellement changé, mais il a commencé à être malade. Et tout à la fin, il a été hospitalisé, j'ai servi des dents, j'allais le faire manger et tout, et un de ses enfants nous a surpris. Et là, curieusement, il a tout déballé. Il a dit, je la connais depuis 45 ans. Et ses enfants m'ont pas mal accueilli du tout. Ils avaient plus des griefs envers leur maman. Et lui, ils le soutiennent en disant que j'étais la femme de sa vie. Alors, je n'y comprends rien, rien de rien.
Voilà. Ah, ils avaient plus de griefs contre leur maman, pas contre leur père.
Curieusement, et toujours, oui, voilà.
Donc vous restez en lien avec ses enfants?
Un petit peu. Je suis allée à l'enterrement et je ne savais pas justement comment ça allait se passer. Et il a 3 enfants. Les 3 enfants m'envoient des photos de leurs petits. Il y en a un qui est à Tahiti, m'envoie des photos. Et la fille, alors le plus difficile, c'est pour la fille, parce que les garçons s'en doutaient un tout petit peu. Et ils ont dit à leur père, si c'est OK pour toi, c'est OK pour nous. Mais la fille, évidemment, ça a été beaucoup plus dur. Et c'est la fille qui, justement, dit, ma mère a toujours fait des mauvais choix. Seulement, sa mère s'est arrêtée de travailler à 42 ans. Avec tout le confort voulu. Et moi, j'ai travaillé toute ma vie. Voilà.
Après, pour qu'il y ait de la place pour un coup de foudre et pour qu'il y ait de la place pour vous pendant 45 ans, c'est que le couple était un petit peu bancal quand même.
Je pense. Mais je crois qu'il avait promis à son père qu'il vénérait, qu'il ne la laisserait pas.
Ah ouais. Oui, donc il y avait une histoire de loyauté aussi à la base de tout cela. C'était pas une question d'amour, c'était une question de loyauté peut-être aussi, même s'ils ont fait trois peut-être. Enfants et qu'ils ont vécu peut-être. Toute oui. leur vie ensemble. Mais vous savez, souvent comme ça, quand il y a des triangulaires, la maîtresse ou l'amant fait tenir le couple aussi. Le couple officiel. C'est-à-dire que si on enlève, ça devient comme un tabouret à trois pieds, en fait, finalement.
Oui, hein oui,
et si on enlève
oui.
un des pieds, le reste s'effondre. Vous voyez, surtout quand ça s'inscrit sur la durée, comme 45 ans.
Oui, oui, vous avez raison. C'est tout à fait ça. Mais il faut que je vous dise, Valérie, moi, j'ai été mariée 2 ans, quand j'étais jeune, à 23 ans. C'était l'époque où les personnes revenaient d'Algérie, les pieds noirs.
Oui.
Et donc, il me faisait de la peine. Donc, je me suis mariée avec lui. Il était bien gentil, mais bon, ça ne me convenait pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai été abonnée aux hommes mariés. C'est terrible. Je ne sais pas pourquoi. Voilà.
Oui. Mais est-ce que vous avez été heureuse, Marie ?
Mais j'ai été heureuse, oui et non. Voilà le problème. J'étais heureuse lorsque je voyais. Bon, je suis une femme indépendante malgré tout. C'est difficile. Je ne sais pas. J'aurais dû peut-être faire une psychanalyse. Je ne l'ai pas fait. Je me retrouve toute seule, vraiment toute seule, parce qu'il a fait le vide autour de moi. Les copines, c'était pas possible. Si elles voulaient aller au cinéma, je leur disais, ben non, s'il appelle.
Ah enfin, oui, vous avez passé votre vie en attente, en fait, parce que c'était ma question d'après. Ça peut être acceptable si vous ne vous mettez pas en attente. Mais si c'est pour être collée à son téléphone et répondre présente dès que monsieur a quelques heures de disponible parce qu'on a trop envie de le voir, parce que si on loupe le coche, ben on ne le voit pas, là, évidemment, c'est une vie en attente. Et ça, ce n'est pas juste, ce n'est pas raisonnable.
C'est bien pour ça, mais je me réveille, je vous dis comme la belle au bois dormant, un petit peu tard, un petit peu beaucoup. Parce qu'évidemment, du coup, j'ai le temps de faire le bilan maintenant. Qu'il n'est plus là. C'est vrai que les derniers temps, ce n'était plus le même homme. Donc, ça m'aide un petit peu.
Parce qu'il était affaibli. Puis, il était aussi âgé.
Âgé, 87 ans.
Oui, et oui, voilà. Donc, mais ça, même si vous aviez été sa compagne officielle, bah, il aurait vieilli, il aurait eu 87 ans. Hein.
Oui, c'est ce que je me dis. Je me dis, je me retrouve. Mais seulement, je ne serais peut-être pas aussi seule. Parce que j'habite Paris, mais c'est dommage d'habiter Paris et d'être aussi seule, finalement. Alors, justement, je me posais la question, partir en province, mais aller dans une maison de retraite, m'acheter un petit studio. Enfin, si les auditeurs avaient une solution, je suis preneuse.
Mais vous êtes autonome, Marie. Vous avez une voix hyper dynamique, vous êtes autonome. Alors déjà, non, pas la maison de retraite, non, pas du tout. Vous êtes autonome, vous allez bien, vous n'allez pas aller en maison de retraite. Mais par contre, peut-être une résidence senior. Ça peut être, parce que la résidence senior, elle est quand même médicalisée. D'abord, il y en a qui sont très très bien, y compris à Paris.
Oui.
Vous avez le coiffeur à disposition, vous avez des activités, vous pouvez aller manger dans le restaurant de la résidence senior si vous voulez, mais vous pouvez vous faire aussi à manger chez vous, vous pouvez avoir un petit deux pièces ou avoir un studio, et vous avez surtout à disposition infirmière, aide-soignant, il se passe quelque chose la nuit, le jour, il y a quelqu'un de disponible.
Ah, voilà.
Donc la résidence senior, c'est déjà intermédiaire. Après, on a reçu à plusieurs reprises dans la libre antenne des personnes qui, et je pense notamment à un monsieur, je me souviens, c'était il y a au moins 2 ans, qui lançait une colocation de senior, qui vendait son chalet, je crois que c'était à Chamonix, et qui allait qui avait acheté un corps de ferme en Bretagne, où on vendait, je ne me souviens plus. Il avait eu plein d'appels de personnes qui voulaient s'installer dans ce logis qu'il rénovait, qu'il allait mettre à disposition pour faire cette colocation. Donc peut-être que la colocation de senior, c'est aussi une très bonne idée en ce qui vous concerne, parce que vous êtes dynamique. Donc vous êtes à la fois autonome, indépendante et à la fois en lien.
Oui.
Et on partage les espaces communs. Moi, je crois que c'est l'avenir. Tant qu'on est mobile et autonome.
Oui, je n'y ai pas pensé du tout, parce que je n'ai pas d'enfant, j'allais pas...
Alors, pourquoi, évidemment. Bah oui, parce que vous aviez trop peur qu'il vous quitte.
Non, parce qu'apparemment, il ne donnait pas de signe de me quitter, donc je ne sais pas, mais je me disais, il a déjà 3 gosses, je ne vais quand même pas encore, ça serait compliqué...
Vous n'en avez jamais parlé ensemble. Parce que 45 ans, on a le temps de se parler aussi, de se dire à un moment donné, au bout de 10 ans de relation, d'abord, vous avez dû lui poser la question plein de fois. Est-ce que tu vas la quitter? Est-ce qu'à un moment donné, tu vas choisir?
Non, parce qu'au début, quand je l'ai connu, il m'a annoncé tout de suite la couleur. Je suis mariée, ma femme est enceinte, et puis c'est comme ça. Enfin, il m'a pas dit ça comme ça, mais il a été tellement charmant, évidemment. Je me suis dit, il me rappellera pas ce monsieur, on s'est jamais disputé en fait. On n'a jamais eu. C'est vrai, maintenant que vous me le dites, on n'a jamais eu une conversation franche, en fait.
C'est vrai. En 45 ans de partage comme ça
il déviait, je ne sais pas, comme moi je devais être beaucoup plus faible, enfin je suppose, que lui avait plus d'emprise. Peut-être que, comme vous dites souvent, j'ai peut-être pas une estime de moi extraordinaire non plus, je me laissais un petit peu
porter, vous voulez dire, parce que vous dites il avait une forme d'emprise, vous vous sentiez sous emprise ou vous étiez libre
pas,
quand même
non, pas
vous, vous choisissiez
emprise.
Quand même Marie, parce que c'est pas choisir un an, 2 ans, 3 ans, et puis finalement comme il n'arrive pas à choisir, on essaye de s'en aller, on n'y arrive pas, bon voilà, ça peut arriver. Mais là, oui. 45 ans, j'imagine que vous avez choisi sur 45 ans quand même.
C'est-à-dire qu'il savait tellement y faire que j'avais l'impression de compter tellement pour lui que j'en oubliais presque le reste. Et puis, je pense que je l'aidais beaucoup, comme vous dites, j'ai l'impression que son couple tenait grâce à moi. Et sa femme, il y a 5 ans, a eu Alzheimer, elle a été en maison de repos. Rien n'a changé. Et après, c'est lui qui s'est senti un peu plus faible. Donc, pour les premières fois, je suis allée chez lui, puisqu'il pouvait plus marcher. Il commençait à avoir Parkinson. Enfin, c'était plus du tout le même homme. Mais alors là, après, j'ai fait du dévouement, quoi. Donc.
Mais vous l'aimiez de toute façon, Marie.
Ah oui,
trop. Et vous l'avez aimé aussi.
Mais trop, beaucoup trop.
Mais est-ce qu'on aime trop?
Je ne sais pas. Je suis vraiment perdue, parce que c'est. Je pense surtout aux dames qui m'écoutent, les dames mariées qui m'écoutent. Je voudrais pas qu'elles pensent que. Enfin, j'ai jamais été une mauvaise femme. Je veux dire, j'ai jamais appelé sa femme ou je me suis jamais fait connaître.
Oui,
et puis surtout,
vous n'avez pas eu l'air d'avoir été très exigeante,
Non, je crois.
Vous demandiez rien de particulier, finalement, j'ai l'impression. Parce que parfois, quand on est embarqué dans des histoires comme ça, à un moment donné, on réclame des vacances, on réclame le choix, déjà, à un moment donné. Que ce soit un homme ou une femme, quand l'autre est marié et qu'on a envie d'être avec lui ou elle, on dit, est-ce que tu vas te décider? Est-ce que tu vas la quitter? Le quitter? À quelle échéance?
C'est quoi notre avenir?
Vous étiez jeune, vous auriez pu lui dire, j'aimerais bien qu'on ait un enfant, parce que t'es l'homme que j'aime, même si la configuration n'est pas la bonne, enfin, etc., etc.
Oui.
Mais vous ne vous êtes jamais manifesté vraiment. Vous êtes vous.
Non, parce que je vais vous expliquer, Valérie. Avant, j'ai eu un monsieur marié qui a quitté sa femme pour moi. Et curieusement, quand il a quitté sa femme, il est venu à la maison. Au bout d'un an, je lui ai dit de partir, j'avais plus envie, ça ne me convenait pas. Alors est-ce que cette vie d'attente et de me plaisait, mais je n'en sais rien.
De toute façon, si vous aviez été en souffrance, Marie, vous auriez bougé. D'abord, vous vous en seriez rendu compte, parce qu'on sait quand on souffre.
Oui.
Voilà. Et la deuxième chose, c'est que vous auriez bougé. Vous avez eu le temps, hein, 45 ans, de bouger. Hein.
Oui.
Donc, voilà. Et finalement, vous l'avez accompagné jusqu'à son dernier souffle. Donc,
c'est absolument. Donc... Puisque les trois derniers jours, ses enfants l'ont fait rapatrier chez lui. Je suis venue le voir et puis voilà, ça a été la fin. Je l'avais accompagné dans l'ambulance. Il me disait, il arrêtait pas de me dire, qu'est-ce qu'on est bien tous les deux, hein, qu'est-ce qu'on est bien quand il y a pas les gosses, qu'est-ce qu'on est bien tous les deux. Il arrêtait pas de me dire ça. À l'hôpital aussi, quand ses enfants étaient très présents, venaient le voir. Et le soir, il me disait, qu'est-ce qu'on est bien tous les deux. Alors, c'est curieux, je ne sais pas quoi penser.
En tous les cas, il me semble que cet homme vous a aimé. Peut-être qu'il a aimé deux femmes, d'ailleurs. Hein. C'est une question que je pose aux auditeurs, d'ailleurs. Vraiment, ce soir, oui. Au 739-21, si vous souhaitez réagir, ou au 01-80-20-39-21, si vous souhaitez nous appeler. Est-ce que vous pensez qu'on peut aimer deux personnes à la fois? Ça, c'est une vraie question, hein. Et peut-être que cet homme a aimé deux femmes. Il a quand même fait trois enfants avec sa femme. Il s'est pas contenté. C'était le premier enfant qu'il attendait lorsqu'il vous a rencontré.
Non, le troisième.
C'était le dernier. D'accord.
La dernière. Oui.
D'accord. C'était la dernière. Oui. Bon. Peut-être que je ne sais pas. Mais en tous les cas, bon, il avait promis à son père de rester avec elle. Et vous n'étiez pas tellement exigeante parce qu'il vous donnait aussi. Vous le voyez quand même trois fois par semaine. C'est comme si vous étiez avec quelqu'un qui, par exemple, voyage.
Nous allions au sport d'hiver tous les ans. On était allé au Danemark, on était allé à Londres. Enfin, on faisait des voyages. Et puis, comme lui, avec son entreprise, il allait dans toute la France, souvent il m'emmenait, évidemment. Mais je vous dis, ça n'a jamais été plus loin qu'une semaine, quoi. Voilà.
Oui, mais en même temps, c'était régulier.
J'étais contente de rentrer, c'est curieux. J'étais contente de reprendre mon travail et de rentrer. Tout allait bien pour moi, quoi. Voilà.
Eh ben, regardez, vous voyez que vous avez vos réponses, Marie. Vous venez de le dire, tout allait bien pour moi. Donc finalement, cette vie qu'il vous a proposée, en plus, il a été honnête avec vous. Parce qu'il aurait pu, attendre que vous soyez folle amoureuse de lui pour vous dire qu'il était marié. Il aurait pu ne pas vous le dire. Enfin, vous voyez, il y a pléthore de scénarios qui auraient pu se jouer. Et lui, il a choisi l'honnêteté. Vous avez choisi en conscience d'être avec un homme marié, surtout que vous sortiez déjà d'une relation avec un homme marié. Et finalement, l'histoire, elle a duré 45 ans sous cette forme. Et vous venez de le dire. Moi, ça m'allait comme ça.
Quelque part, oui. La plupart du temps, ça m'allait. Bon, mais il faut vous dire que moi, j'ai pas eu de père non plus. Hein. Ma maman a quitté mon père, j'avais 4 ans. J'ai expliqué à Nicolas que, justement, moi, les gamins, à mon époque, on était malades des bronches, donc on nous mettait en préventorium, les jeunes ne connaissent pas ça. Ou alors j'allais en pension, ou j'ai pas eu de vie de famille non plus. Alors je ne sais pas, en tout cas, les 2 ans de mariage ne m'ont pas convenu. Et il était gentil pourtant, ce garçon, mais bon, je ne sais pas.
Oui, mais la gentillesse ne suffit pas, hein. Surtout pour vivre avec quelqu'un.
Oui, je n'étais pas très amoureuse. Oui.
Voilà, c'est ça, la gentillesse ne suffit pas. Si tous les gens gentils devaient rencontrer quelqu'un, ça se saurait, hein. Donc, vous voyez. Mais par contre, moi, ce que j'entends, alors que vous me disiez à l'instant, je suis un peu perdue, je sais pas, j'ai peut-être perdu mon temps, etc. Non, en fait, vous avez dit, moi, ça m'allait très bien. Et le principal, c'est d'avoir été bien. Et d'être bien aujourd'hui. Alors, c'est vrai, aujourd'hui. Mais si vous aviez été avec cet homme au quotidien, encore une fois, il serait quand même parti. Son heure, c'est son heure.
Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, 87 ans, c'est pas mal déjà.
Voilà, donc aujourd'hui, vous seriez seule aussi, Marie.
Oui, c'est ce que vraiment, c'est ce que je me dis, Valérie. Vraiment, alors là, je vous remercie de votre soutien parce que c'est vrai que je me disais, est-ce que c'est bien de penser ça? Je m'en voulais même de penser ça. Je me disais, dans le fond. Sauf que c'est peut-être un peu tard, parce que j'ai 81 ans, et maintenant, voilà.
Alors déjà,
pour moi, c'est fini.
Vous savez, non, pas forcément du tout, hein. pas forcément du tout. Hein. Vous pouvez de toute façon rencontrer encore quelqu'un. Le principal, c'est d'avoir sa mobilité, toute sa tête, d'avoir des envies, et on sent votre dynamisme. Donc, au lieu de regarder le passé, mais je comprends que vous le fassiez, oui, en vous interrogeant si vous auriez dû faire autrement, c'est comme quand vous dites peut-être que ce serait bien que je vais faire une psychanalyse. Mais si vous êtes bien, pourquoi vous iriez creuser, aller regarder, et pourquoi, et ceci et cela? Vous avez vécu 45 ans d'histoire d'amour, où vous vous êtes senti plutôt bien, visiblement.
Oui.
Alors,
oui,
pourquoi aller lever des voiles qui n'existent pas? Par contre, regarder le futur en disant, oui, alors maintenant, évidemment, j'ai 81 ans, j'ai pas d'enfant, vous avez des amis, Marie?
Non, ben non, 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 non. J'ai un demi-frère, une demi-sœur, mais bon, ils n'étaient pas d'accord avec cette histoire de marier, donc je ne les vois plus. Bon, j'ai plus de parents, évidemment. Non, j'habite Paris et je suis seule comme les voisins. Bon, ils ont tous changé. C'est vrai que j'ai l'intention vraiment de partir de Paris, finalement.
Alors, pourquoi pas? Mais dans ces cas-là, il faut vraiment que vous définissiez, et c'est peut-être en ça que quelqu'un pourrait vous aider, mais plus qu'une psychanalyse, voyez quelqu'un quelques séances, vous n'allez pas vous embarquer dans un travail de fond, alors que vous avez une vie qui vous a plutôt convenu, avec de l'amour, et quand même du partage. C'est juste peut-être pour voir un peu plus clair sur vos besoins d'aujourd'hui. Où est-ce que vous avez envie de vous établir, par exemple? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que vous aimez la mer? Est-ce que vous préférez la montagne? Il faut être quand même près d'une grande ville pour qu'il y ait quand même un service hospitalier.
Absolument.
Moi, je crois que c'est important de rester en lien avec les enfants de ce monsieur, puisqu'ils vous ont fait une place à la fin, quand la place était libre, hein, d'une certaine manière, auprès de lui. Et vous avez été aidante, vous avez été dévouée. Donc, eux, visiblement, ils sont quand même plutôt gentils, ces enfants-là.
Ah, mais ils me remercient, parce que maintenant, ils ont compris combien j'avais pris soin de leur père. Et, oui, tout à fait. Au contraire, ils ont beaucoup de gratitude envers
vous.
Moi.
Voilà, donc.
Mais moi, j'ai du mal, parce que de sortir de l'ombre à la lumière, vous savez bien, c'est pas facile. Pas facile du tout.
Mais là, c'est juste accueillir leur démarche vers vous. Et vous aussi, nourrir la démarche vers eux. C'est passer un petit coup de fil de temps en temps, demander des photos, peut-être leur suggérer de les voir un peu plus s'il y en a qui sont sur la région parisienne. Ça peut être un déjeuner, ça peut être un dimanche midi.
Je l'ai fait. Et je l'ai fait avec la fille, parce qu'elle, elle voulait savoir. C'est normal.
Oui.
Bon, elle a 42 ans, elle a 4 enfants. Elle est très bien établie, enfin... le premier mari a été le bon, enfin. Mais elle avait besoin que je lui parle de son père, mais elle ne comprend pas, enfin, aucun des enfants ne comprend, c'est là où ça coince, pourquoi lorsqu'il s'est retrouvé seul, il n'a pas parlé de moi. Voilà. Et que tout a continué comme avant.
Peut-être
ça,
par loyauté.
Il n'arrive pas à le comprendre.
Peut-être par loyauté vis-à-vis de son épouse, hein. Et puis peut-être qu'il avait honte aussi d'avoir une double vie pendant 45 ans, c'est pas évident, avouer à des enfants, ça. Par rapport à leur mère.
C'est un peu Oui, c'est surtout pour la fille. Je crois qu'il était très mal à l'aise. Oui. Les garçons, ça allait à peu près, mais la fille... Oui, vous avez raison, c'est certainement ça.
Oui, et puis le
mais
père...
Elle a
et puis
du
le...
mal à le comprendre.
Et puis
ça.
Le père, oui. Et la fille, c'est un lien particulier aussi, hein. C'est pas la même chose qui se joue.
C'était le petit bijou, la fille.
Voilà,
l'Oedipe,
voilà, le lien entre le père et la fille, c'est différent. Peut-être qu'il n'a pas voulu casser l'image du père. Parce que qu'est-ce qu'il renvoie comme image à sa fille? Que les hommes peuvent avoir une double vie et peuvent mentir?
Ah oui, voilà. C'est tout à fait ce que... Voilà, c'est ce que je cherchais. Écoutez, vous me le dites et je pense que c'est ça, en fait, complètement.
Après, c'était pas vous cacher, c'était préserver son lien avec sa fille aussi et l'image de l'homme.
Oui.
Mais finalement, regardez, les choses se sont restaurées puisque à la fin de ses jours, vous étiez avec lui à ses côtés et qu'il vous manifestait de l'amour aussi quand il vous disait qu'est-ce qu'on est bien tous les deux. Jusqu'au dernier moment, il vous l'a dit.
Oui. Et c'est vrai qu'il avait des enfants extraordinaires, puisque le docteur qui s'occupait de lui, il me disait s'il m'arrivait la même chose, je voudrais avoir les mêmes enfants, tellement qu'ils s'occupaient de leur papa. Les trois derniers jours, ils l'ont rapatrié chez lui avec du personnel soignant et tout ce qu'il fallait pour qu'il décède chez lui. Quoi. Oui. Ils ont vraiment été formidables.
Et puis, oui. Pour qu'ils comprennent aussi que vous avez une place particulière, c'est qu'ils respectaient beaucoup leur père aussi.
Oui, c'est vrai.
Donc, ce sont des enfants quand même dignes.
Ah, oui.
Donc, oui. Restez avec nous, Marie. On va poursuivre cet échange, si vous voulez bien, juste après le flash de Maëlle Laurent. Ne bougez pas.